Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, émission numéro 78. Cet entretien est avec Sophie Hack, directrice marketing chez Les Figaro Classifieds et en charge de Choose Your Boss, une nouvelle plateforme qui permet aux entreprises de mettre en lien et de recruter des geeks. L'objectif est de créer un environnement qui est plus favorable, mieux adapté à l'état d'esprit du geek, du programmeur et des spécialistes de systèmes d'information. C'est une initiative que je trouve intéressante, au moins philosophiquement. À voir comment les entreprises aiment quand les demandeurs d'emploi peuvent choisir leur propre chef. Sans doute un bel enjeu. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue.
Bonjour et bienvenue au Minter Dialogue Internet Show. Alors aujourd'hui, je suis au web, donc je fais des entretiens avec des gens qui m'intéressent. Et en l'occurrence, je suis sur le créneau de comment booster le coefficient, la qualité de votre quotient geek en entreprise. Donc Sophie Hack, explique-nous qui tu es, ce que tu fais.
Bonjour, je suis directrice marketing d'une marque qui vient de sortir qui s'appelle Choose Your Boss. C'est une solution pour recruter des geeks. Puisqu'en fait, comme on sait, c'est très compliqué de recruter des geeks en France et ailleurs. Et il se trouve que les geeks ne veulent plus aller ni sur les sites emploi, ni sur les réseaux sociaux qui sont publics parce qu'ils se sentent harcelés. Donc, sur Choose Your Boss, on leur promet de les protéger.
Alors, est-ce qu'on a autant de pénuries en France qu'on a dans les autres pays pour avoir les bons programmes? Est-ce que c'est vraiment le cœur du problème?
Absolument, c'est le cœur du problème, c'est qu'on a vraiment une pénurie de compétences sur ces métiers-là. Et en parallèle de ça, en plus, on a des profils informatiques qui ne veulent plus s'inscrire sur les carrefours habituels où ils étaient amenés à rencontrer des recruteurs parce qu'ils se sentent harcelés.
Cet harcèlement, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à recevoir des tas de propositions de postes qui ne correspondent pas à leurs attentes, qui ne sont pas ce qu'eux, ils demandent ou pour lesquels ils n'ont pas exactement les compétences techniques requises parce que peut-être que le recruteur n'est pas un opérationnel et ne connaît pas le langage technique dont on parle. Donc, ils attendent vraiment des annonces très, très ciblées technologiquement, mais aussi est-ce qu'ils veulent travailler dans une petite entreprise, une grande, une SS2I ou pas, une start-up ou pas, à Paris, à La Défense, en région. Ils ont chacun leurs propres critères et l'important, c'est de prendre tout ça et de faire le bon matching. Voilà.
Moi, je suis entreprise, j'ai besoin de programmers pour plein de raisons. Comment est-ce que je peux qualifier la qualité donc de ce programmer, pour ne pas toujours dire geek, et ses compétences? Parce que l'expérience, si on n'a pas des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience, comment est-ce que je suis censé faire?
Alors, donc vous allez avoir des critères qui sont communs à toutes les professions, qui sont des critères effectivement d'expérience, qui sont des critères qui sont liés au passé et à l'envie du candidat par rapport à ses attentes, mais vous allez aussi surtout avoir du matching sur des expressions technologiques, et c'est là qu'on travaille beaucoup l'algorithme de Choose Your Boss, de façon à ce que le matching sur les expressions technologiques évolue en temps réel, en fonction des données que les internautes nous donnent et des besoins que les recruteurs dont ils nous informent.
Alors, je suis entreprise, j'ai envie de recruter. Quelles sont les consignes à donner? Je suis le recruteur en entreprise. Et parlez-moi franchement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire?
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez parler franchement aussi à l'internaute. C'est-à-dire, il faut dire qui vous êtes, ce que vous proposez. Les internautes attendent des informations de plus en plus concrètes sur les offres d'emploi, sur les positions qu'on est amené à leur proposer. Ils veulent savoir dans quel environnement ils vont travailler, sur quel matériel ils vont travailler dans l'informatique. C'est important. Savoir dans une équipe de quelle taille ils vont travailler, quel est le process de communication dans l'entreprise. Voilà, ils attendent des informations très concrètes sur l'endroit et les personnes avec lesquelles ils vont être amenés à collaborer.
Alors, très souvent, le problème, c'est que l'ambiance n'est pas apte pour le type de travail qu'on a besoin de faire, du programming. Je connais beaucoup de programmeurs qui adorent travailler la nuit parce que c'est un métier où il faut être super sérène dans son coin. On est beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore Apple. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller pour accommoder et arriver à tirer durablement des bons programmers?
Eh bien, il faut, en fait, comme je disais, un maximum de transparence, parce que si on arrive à les attirer sur un malentendu, de toute façon, ils ne resteront pas, et c'est une déception garantie. Et de toute façon, un recrutement raté, ça coûte très cher. Un recrutement réussi, ça peut coûter plus ou moins cher, mais un recrutement raté, ça coûte toujours très cher, que ce soit en temps ou en argent.
Alors, prenons de l'autre côté, je suis maintenant geek, et je regarde les entreprises. Quelles sont les consignes pour un geek pour rentrer dans l'entreprise et bien vouloir y rester?
Alors, c'est d'avoir été aussi le plus transparent possible de son côté, hein, d'avoir mis les cartes sur table. Mais il faut en même temps, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en permanente évolution par rapport à la façon dont ils intègrent les geeks dans leurs entreprises, qui savent que c'est une population différente, qui s'adapte plus ou moins à cette population. Et du coup, il ne faut pas tout attendre de l'entreprise, il faut aussi proposer des nouveaux modes de fonctionnement à l'entreprise quand on arrive dans l'entreprise, ça c'est très important. Et puis aujourd'hui, l'informatique de façon générale a une place tellement importante dans la plupart des sociétés, puisque que ce soit les pure players ou les sociétés traditionnelles qui sont de toute façon forcément de plus en plus digitalisées, ça a une place tellement importante que oui, il faut que le geek apprenne à parler de ce qu'il fait aux personnes avec qui il travaille. Et ce sont les geeks qui arrivent à expliquer ce qu'ils font aux autres qui sont souvent ceux qui progressent le plus dans les entreprises.
Quels sont les postes les plus demandés? Quelles sont les qualités les plus demandées? Est-ce que c'est HTML? Quelles sont les qualités de programmers qui sont le plus en demande?
Alors, il y a beaucoup de langages qui sont demandés. Clairement, en termes de position, ce qui va être le plus demandé, c'est les développeurs, encore des développeurs, toujours des développeurs.
Qui sont doués en quel langage?
Ça va être du query, du Java, ça va être effectivement du PHP. Aujourd'hui, il y a de telles pénuries qu'on retrouve vraiment une grande diversité de langages dans les technologies qui sont, dans les compétences technologiques qui sont recherchées.
Alors, quelles sont les écoles, on va dire, fétiches? Parce qu'on veut en parler des grandes écoles, on les connaît toutes, à peu près. Mais pour ce qui est de programming, quelles sont les têtes de série?
Je ne pourrais pas, moi, aujourd'hui, vous dire quelles sont les écoles tête de gondole, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous, on a de toute façon un modèle qui est basé sur la compétence technologique avant tout. Alors, bien évidemment, il y a des entreprises qui regarderont les écoles et d'autres pas du tout. Mais justement, l'idée, c'est de proposer des postes dans des startups, dans des SS2I, dans des petites sociétés, dans des grandes sociétés. Et du coup, vu la diversité de recruteurs, on peut pas dire qu'il y ait une école qui garantisse...
Moi, de mon côté, je suis en train de prêcher pour... Il faudrait augmenter la visibilité, la notoriété des bonnes écoles qui sont capables de bien former, parce que les écoles ont un rôle à jouer, à préparer les personnes, autant en qualité de programmeur, mais aussi qualité de vie. Et donc moi, j'ai fait un cours à Super Internet, donc j'ai été avec 85 personnes, avec Marc Roussier qui l'a fait, et donc j'ai pu exister là-dedans, mais je pense que jusqu'alors, ce n'était pas connu pour moi, alors que je suis pleinement dedans, donc... Voilà, c'est pour ça que je pose la question. Choose your boss. C'est un mot très anglais. Je pense que le marché est plutôt pour vous la France, vu que votre propriétaire, c'est quand même un groupe français. Pourquoi cette URL?
Alors, le recrutement, c'est effectivement quelque chose de local, mais l'emploi, aujourd'hui, c'est une problématique globale. Donc, on s'appelle Choose Your Boss parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'adresse à des recruteurs qui sont essentiellement en France et qui vont recruter pour la grande majorité en France. Pour autant, on sait que la compétence, elle n'a pas de nationalité aujourd'hui, encore moins dans l'informatique.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des personnes qui postulent de l'extérieur?
Oui, bien sûr, oui, on a déjà, alors je n'ai pas là les statistiques à ce moment précis, mais bien évidemment, sur les milliers d'inscrits qu'on a, on a une proportion d'inscrits à l'étranger, bien évidemment.
Vous les aidez à s'intégrer, ou il faut avoir juste un passeport européen et bon, c'est à eux de se démêler pour le reste?
Alors nous, notre rôle s'arrête à la mise en relation entre le recruteur et le candidat. Après, c'est ce qui se passe ne dépend plus de nous.
Alors combien la langue parlée du geek est important?
C'est l'expression, vous savez, aujourd'hui, on sait que dans le monde moderne, 70% de la communication passe par la présentation, et bien évidemment, le mode d'expression du geek a sa place, et on va pas dire que c'est aussi important que dans d'autres professions, puisqu'on connaît la prominence de la compétence technologique. Mais il est évident que, comme je vous disais tout à l'heure, un geek qui sait faire passer des messages, qui sait expliquer ses difficultés, qui sait expliquer par avance pourquoi un projet fait telle ou telle durée, il aura tout de suite beaucoup plus d'adhésion au sein d'une entreprise que quelqu'un qui ne prendra pas la peine de faire ce travail d'expression.
En fait, derrière ma question, ce n'était pas celle-là, c'était plutôt est-ce que l'anglais est important ?
Ah oui, bien sûr. Bah alors là, pour le coup, avec les langages technologiques, c'est presque une question d'arrière-garde, si je peux me permettre.
Je comprends. Je demande tout, je pense, et c'est pour ça que j'enfile derrière ça, parce qu'en fait, toute la programmation, évidemment, est en langue anglaise. Et alors, quand bien même le programmeur, il parle anglais, parfois, il est face à des gens qui ne le sont pas. Et d'où ma question, enfin, mes questions, je cherche sa qualité. Je veux qualifier, il est bon ou pas, j'en sais rien, moi, parce que j'ai jamais fait du programming, je suis pas capable de juger sa qualité de programming. Deux, il faut savoir juger sa qualité d'écriture, l'expression étant une chose, mais l'écriture, est-ce qu'il est rigoureux, parce que écrire le programming comme ça, c'est tout un autre art. Et enfin, il y a la culture, est-ce que j'ai un moyen qui va tenir? Comment garder motivé des geeks en entreprise?
En fait, ce qui se passe tout d'abord, juste pour répondre sur la complexité d'expliquer, en fait, les technologies sont de plus en plus complexes. En revanche, si on prend l'exemple d'Internet, sur Internet, l'expérience internaute, elle doit être de plus en plus simple. Donc, aller de technologies de plus en plus complexes pour proposer une expérience de plus en plus simple, c'est quelque chose, bien évidemment, que le geek doit intégrer dans sa façon de présenter les choses. Et l'anglais, pour cela, aide beaucoup, beaucoup plus qu'une langue comme le français. On va dire que l'anglais est plus straight to the point que le français. Et pour le coup, l'anglais peut être réellement une arme. Alors, la deuxième question, c'était, excusez-moi...
Comment est-ce qu'on peut le maintenir, le garder, conserver, motiver?
Ah oui, alors là, du coup, il y a autant de façons de faire que d'entreprises, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des SS2I qui ont des très, très bonnes réputations, qui sont élus Great Place to Work chaque année, que ce soit en France ou à l'international. Et là, une fois de plus, on fait aussi, nous, des études sur le marché des cadres, notamment. Et oui, les cadres s'intéressent aussi à l'ambiance au travail, au cadre de travail, à la localisation, le télétravail. En fait, c'est tout ce qui va concerner l'équilibre vie perso, vie professionnelle qui, aujourd'hui, va être de plus en plus important dans la fidélisation de l'informaticien.
Et pour moi, enfin, ça, c'est typiquement quelque chose que tout le monde devrait s'intéresser là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une population qui est encore plus aiguisée là-dessus parce que on peut travailler digitalement. Alors, je vais une dernière partie, Sophie, mon entretien, c'est sur la transparence. On dit que, et puis il y a en fait.
Bien sûr.
Donc, le de facto par rapport à le dit, je pense qu'il y a pas mal de décalage. D'où l'intérêt d'un site comme Glassdoor qui va permettre aux employés, comme meilleurs employés, aux employés présents et passés, de s'exprimer sur comment était mon chef. Comment était l'entreprise, comment je l'ai vécu. Bon, bien sûr, il y a des gens qui sont réfractaires, pas contents, qui racontent leur vie. Il y a aussi la transparence sur les salaires, puisqu'il y a pénurie de programmers, il y a encore plus de pénurie de bons programmers, et aux États-Unis, ça coûte drôlement cher, parce qu'il y a la concurrence comme Google, Facebook et tout le reste qui vont chercher les meilleurs. Comment faire par rapport à ça?
Alors, vous avez raison, c'est un point très important. Alors, c'est logique de dire que c'est important. Simplement, nous, ce qu'on voit dans les études, c'est que jusqu'à il y a 2-3 ans, on disait la première chose, c'est l'intérêt du travail, puis le salaire. Ça fait 2-3 ans qu'on dit, OK, la première raison de changer de job, c'est le salaire. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on affirme beaucoup plus, sur lequel on est beaucoup moins complexé qu'auparavant. Il y a moins de tabous. Et pourtant, en France, on a encore beaucoup de retard puisque, en proportion, le nombre d'offres sur lesquelles on a le salaire reste un pourcentage très peu élevé. Donc, nous, on fait beaucoup de pédagogie auprès des recruteurs pour communiquer là-dessus. De toute façon, tôt ou tard, le rideau se lève et on gagne du temps de part et d'autre quand on est transparent sur ce sujet-là dès le départ, effectivement. Aujourd'hui, c'est un critère affirmé.
Oui, et de toute façon, je me dis, moi, qu'avec Glassdoor, meilleures entreprises, va y avoir pas simplement une fourchette, une échelle, mais les salaires des gens, des réels gens, enfin, toujours en c'est qu'est-ce que comment on dit ça, c'est quelque chose, j'ai dit que je peux pas être
déclaratif.
Merci Sophie, mais ça va y arriver, donc il faudrait que les entreprises se rattrapent sur la réalité.
Oui, alors avec quand même la limite qui est bien évidemment les politiques de rémunération dans les entreprises. Il faut en préalable que les politiques de rémunération des entreprises soient posées, soient cohérentes, soient assumées. Et bien évidemment, quand on passe une annonce et qu'on met un salaire dessus, ben on a déjà des personnes dans l'entreprise qui sont susceptibles de voir quel salaire on met pour ce poste. Donc souvent, c'est plus un problème de communication interne dans l'entreprise qu'un problème de communication externe vers de potentiels candidats.
Ouais, Sophie, superbe. Un énorme sujet. Je pense que c'est stratégique. Et comment est-ce que les gens peuvent te suivre, connecter avec vous au total? Donnez-nous quelques coordonnées.
Donc je suis sur Twitter, @SophieHackGazo, SophieHackGazeau. Sur Twitter, sur LinkedIn, sur l'ensemble des réseaux que vous connaissez, et enchantée.
Et puis évidemment avec Choose Your Boss.
Et évidemment, suivez nos aventures sur Choose Your Boss, ça ne fait que commencer.
Ouais, génial, merci beaucoup Sophie.
Merci.
Alors merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.